Oui, c'est super, ça marche? Non, oui, c'est bon? C'est bien. Voilà, moi j'entends pas. Si, ça y est, j'entends là que ça marche. Voilà, super, donc je me présente un petit peu. Salutations d'abord à chacun et chacune, les Bretons et les pièces rapportées en Bretagne. Enfin, tous ceux qui sont de la région de Bretagne. C'est vrai que c'est une grande région, et je disais hier, c'est un pays à part quand même, hein. Les Bretons avec Astérix, Obélix, non, bref. En tout cas, je suis marié, mon épouse s'appelle Chantal. C'est pour ça, quand on chantait ce chant tout à l'heure, chante Alléluia, vous savez, quand je vais pas très bien, ça m'arrive, j'appelle ma femme et je dis Chantal, et j'entends Chante Alléluia au Seigneur, là, je suis déjà mieux. J'ai dit c'est vrai, je regarde plus à mon souci, mais voilà. Je suis marié donc avec Chantal, j'ai quatre enfants, deux filles, deux garçons, six petits-enfants. Je suis un papé, on dit dans le sud-ouest de la France, le papé. Et puis, bon, c'est quelque chose de merveilleux d'être papy, mais en même temps, ça nous permet d'être proche des petits-enfants. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai vu tous ces petits-enfants, j'ai dit, qu'est-ce que c'est magnifique. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. J'en avais vu que deux pendant 2 jours. Et puis j'ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Puis d'un seul coup, tous ces enfants, c'est vraiment. Voilà, ça produit beaucoup dans le coin, hein, quand même. Il y a la fécondation. Hein. Il y a des régions, il n'y a pas, mais il y a des régions où ça. Voilà. En tout cas, c'est super. Heureusement qu'il y a les Africains qui viennent nous aider aussi pour avoir plus d'enfants, quoi. Mais voilà. Dieu m'a donné aussi un ministère prophétique et je voyage dans beaucoup de pays et beaucoup de nations. Et c'est vrai, dans tous ces pays d'Afrique noire aussi, j'ai voyagé. Dans les pays d'Inde aussi, j'ai voyagé dans les pays arabes. Je ne vais pas tous les citer encore une fois, mais juste pour vous dire, je suis entre le ciel et la terre, quoi. Et j'essaie de faire descendre le ciel sur la terre maintenant, mais voilà. En tout cas, plus près de Jésus déjà. 15 000 pieds, vous vous rendez compte? J'ai gagné ce temps-là par rapport à vous. Il faut aller en avion. Non, parce qu'on sait quand on monte, mais maintenant avec tout, hein, on sait quand on est là, on ne sait pas si on va être là demain. Mais le principal, c'est de savoir où on va après, quoi. Donc c'est super. Et puis, voilà, donc dans tous mes voyages, je rencontre des gens de toute nationalité qui ne parlent pas forcément la même langue que moi, parce que je ne connais que le français. Et je parle, d'après ce qu'on m'a dit une fois, pas très bien le français, quoi. Alors c'est vrai que des fois, dans les mots, voilà, quelqu'un qui parle bien le français, il parle un peu mieux que moi quand même, hein. Moi, je parle avec mon cœur, voilà. Et avec l'accent du sud. Avec le soleil qui chante. Et puis, dans tous ces pays et ces nations, ce que je rencontre, c'est le même esprit. Tous ces gens où il y a l'esprit de Dieu qui nous unit. Et on sait que c'est lui le centre, le Seigneur, qui nous rassemble. C'est un papa et il rassemble. Et un jour, on se retrouve tous ensemble là-haut, de toutes langues confondues. Et même si on n'a pas la même langue sur la terre, on a le même papa. Et ça, c'est merveilleux. Et moi, j'ai tellement découvert ça, et c'est magnifique. Et puis, on voit beaucoup de choses se passer, des choses extraordinaires, des guérisons, des choses où Dieu continue à étendre son bras puissant. Et il se fait des prodiges, des miracles, des résurrections. Et on voit comment Dieu est en train d'intervenir sur la terre. Mais vous savez comment? C'est au travers de tous ses enfants. Ce n'est pas au travers d'élites. Souvent, on a cru que le ministère prophétique, comme Dieu m'a donné, ou d'autres ministères, c'est ceux qui vont décider de tout. Non, il est dit sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous, pour amener les gens à être au-dessus et à rentrer dans l'appel que Dieu leur a donné. En fait, chacun a reçu le même esprit, l'esprit de Dieu, et l'esprit de Dieu, c'est le même qui se sert partout sur cette terre, au travers de chacun d'entre nous. Tu te rends compte, là où tu es, l'Esprit de Dieu est là. Ah, ça change notre façon de travailler et de faire. Hein. On fait attention. Ouah, si Jésus est là, est-ce qu'il peut cohabiter dans mon corps avec autre chose? Non. Je crois que Dieu veut nous apprendre. Et partout, on voit comment Dieu est tout-puissant. Et quand il est dit dans la Bible, quand Dieu se lève, l'ennemi tremble et s'enfuit. Mais souvent, pour rentrer et vivre ces choses, c'est quand on arrive à être tellement désespéré qu'on ne le laisse enfin faire dans nos vies. Et je crois que c'est quand on touche le fond. Et des fois, quand je vois, pardon de dire ça, hein, pour ceux qui le sont, mais des fois dans des dépressions, je dis, mais des fois il faut absolument presque arriver là à toucher le fond pour crier vers lui, pour que Dieu vienne nous sortir de là. Et qu'enfin, on commence à communiquer avec lui et le connaître. Vous savez, je dis souvent ça, mais c'est pour ceux qui font du tennis, je ne sais pas si ici en Bretagne on fait du tennis, mais c'est quand la balle touche le sol qu'elle est multipliée par sa vitesse et qui va plus loin. Et il faut que le peuple de Dieu puisse toucher des fois le sol pour pouvoir arriver à laisser l'Esprit de Dieu parler, le conduire, laisser se convaincre de péché, le laisser te toucher dans toute ta vie. Et je crois que c'est là, quand nous ne savons plus quoi faire, que nous ne trouvons aucune réponse, c'est l'Esprit peut nous donner sa réponse. Mais comment peut-il apporter une réponse si nous sommes toujours repus de toutes nos réponses? Je sais qu'il est dit qu'il y a qu'à, il y a beaucoup d'il y a qu'à, il faudrait que, il devrait faire que, il faut... Ah, c'est terrible. Et je crois que des fois, on a tellement de réponses à tout qu'on ne peut pas laisser le Saint-Esprit agir au travers de nous. Il ne peut pas. Vous savez, on va lire un passage, et c'est intéressant, c'est dans Galates, au chapitre 4, verset 9, ce truc est un peu trop lourd pour ma ceinture, je vais le mettre dans la poche, voilà. Galates 4, 9, je ne sais pas si vous l'avez, moi, il faut peut-être que je le sorte aussi. Alors, Galates, c'est bien ces trucs-là, ça va vite avec ça, enfin normalement. Galates 4, 9, j'essaie d'être moderne, mais voilà. Et il dit ça ici, « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ?» Quand il est dit ça, est-ce que vous avez pensé à ce que signifie être connu de Dieu ? Même si pendant des années, tu as dit « Je connais Dieu, moi », eh bien, j'ai une question à vous poser d'abord. Connaissez-vous Dieu ou connaissez-vous simplement des choses le concernant? C'est vraiment complètement différent, n'est-ce pas? Êtes-vous de simples connaissances ou des amis intimes de Dieu? Ça fait une grande différence. Et quand vous lisez Galates 4, Paul explique la différence entre un esclave et un enfant. Il désire s'assurer que les Galates profitent des privilèges que Christ leur a acquis à la croix. Et il leur rappelle. Et beaucoup d'entre nous sont prêts à dire qu'ils sont enfants de Dieu. Et est-ce que ça se pourrait que ça soit des mots qui sonnent creux, vu ce qu'on vit? Pouvez-vous dire avec assurance du plus profond de vos cœurs que vous connaissez Dieu et qu'il vous connaît? Sincèrement, est-ce que vous pouvez le dire? C'est des grandes questions ou des remises en question. Hein. Est-ce qu'on est... Voilà, ouais, moi je suis évangélique, mais est-ce que tu connais Dieu, quoi? Il a parlé de cela tout à l'heure un petit peu. Hein. Ou c'est toi, je ne sais plus quel des deux. C'est incroyable. Mais voilà. Je crois qu'il faut être vrai hein, dans notre vie. Avec Dieu, on ne peut rien dire ni cacher. Et Paul l'explique que c'est le Saint-Esprit qui donne à nos cœurs l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit, encore une fois, qui convainc, qui nous montre « Tu es enfant de Dieu ». Moi, je sais, le jour où ça m'est arrivé, c'était bouleversé. Je savais que maintenant, mon papa, c'était Jésus. Quoi. Et c'est incroyable. Galates 4, versets 6 et 7. Galates, chapitre 4, versets 6 et 7, il dit « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père, Papa ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier, n'est-ce pas ? Moi, je trouve que c'est magnifique. Tu te rends compte ? Héritier avec Christ. Co-héritier avec Christ, on est des fils et des filles de Dieu. Mais c'est extraordinaire, je trouve. Tu te rends compte ? T'es le même que Jésus. On est co-héritier avec lui. On a le même héritage. Dieu fait de nous ses fils. Mais on ne peut pas naturellement le devenir. C'est l'Esprit qui nous met ça dans notre cœur. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui n'ont pas été jusqu'à là. Mais l'Esprit, c'est ça aussi, vivre l'Esprit. C'est intéressant. Souvent, on n'aime pas, mais pourtant, c'est important. Paul redit ces vérités en Romains 8, 15 à 17. On peut le regarder, si vous voulez. Romains 8, 15 à 17. 8, 15 à 17, et il dit ça. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. » Tu te rends compte, il t'a laissé un testament extraordinaire avec tout écrit dessus, comme les notaires. Et il dit dedans, voilà, tu es mon fils, tu as droit. Tout ce qui est là est à toi. Je t'ai donné tout pouvoir, toute autorité sur toute chose. C'est dur, hein, parce qu'on se dit, est-ce que je connais réellement Dieu ou est-ce que je connais peut-être ce qu'il fait? Est-ce que réellement dans mon cœur, je suis conscient que j'appartiens à Christ? Je ne fais plus partie de ce monde, mais je fais partie de la Jérusalem céleste, du ciel, tout en étant sur la terre. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Et je ne sais pas par rapport à ces vérités si vous adhérez à 100%, mais peut-être que vous dites, je ne vis pas ce genre d'intimité avec Dieu. Et je ne pense pas qu'on peut expliquer ces choses-là sur 4 points. Voilà, premier, deuxième, troisième. Non, ça se vit, quoi. Vraiment. Alors, on ne peut pas donner. Voilà, je sais que Jésus habite en moi, quoi. Je sais que je ne suis plus le même personnage. Je sais, le jour où je l'ai rencontré, ma vie a été bouleversée, quoi. Et je n'étais plus le même. Je suis devenu un fils tout de suite. C'est extraordinaire de voir ça. Souvent, on cherche une vie sans risque, mais l'Esprit se manifeste souvent dans des situations où nous aurions peur normalement. L'Esprit se manifeste. Vous savez, je suis allé dans des pays où j'ai été menacé par des Kalachnikovs pour me tuer. J'ai été en 1994 au Rwanda, Burundi-Rwanda, où il y a eu toutes les meutes. J'étais là-bas, j'étais en train de prêcher quand ça s'est déclenché. C'était terrible. Quand au poste, on entend, et on me l'a traduit, tuer tous les Tutsis. C'était terrible. J'étais là. Et voir le pasteur qui devient tout blanc, alors qu'il est de couleur noire. C'était impressionnant de voir ça. Je dis, ça va pas, t'es pas bien. Si, voilà ce qu'ils ont dit. Et à ce moment-là, vraiment une horreur de puissance, de ténèbres s'est déchaînée. Et puis, à ces moments-là, alors moi, j'ai prêché, je sortais de la salle, chevauchais les morts. C'était affreux, affreux. Les gens se massacraient, mais des choses qu'on n'oserait même pas raconter aujourd'hui, quoi. Tellement c'est terrible. J'ai assisté à ça. Il y a eu des films de faits sur ce domaine. Mais c'est une réalité. Et puis, après ça, les soldats me voient parce que j'ai reçu un papier, j'ai vu un papier parce qu'on m'a mis du côté des ambassades pour me protéger. Et j'ai reçu le gars qui était là, c'était un haut fonctionnaire qui m'a logé. Sa femme était chrétienne, mais pas lui. Il me montre un papier que finalement, les Français sont responsables de ce qui vient de se faire. Un papier signé de notre président à cette époque-là. Et qui a livré des armes, tuer tous les Tutsis, il était écrit, signé de sa main. J'ai vu, je devenais dangereux pour le pays, en tout cas pour la France. Mais j'étais sur place à ces moments-là, et puis à ces moments-là, des militaires sont venus, et ils ont voulu me tirer dessus. Toi, à cause de ton président, voilà ce qu'il y a dans notre pays aujourd'hui. Tu dois payer pour ton président, et tu dois mourir. Terrible. Et j'ai rien fait. Dieu est venu me justifier. Mais des gens qui ne me connaissaient pas sont venus pour me défendre. C'était incroyable. J'ai jamais vu ça. Des gens qui n'étaient même pas chrétiens. Mais cet homme fait du bien au pays. Je dis, mais qui leur a dit tout ça? Et je dis, mais incroyable. Comment Dieu est si proche de nous? Puis après, je suis revenu en France. Je vous raconte toute l'histoire parce que maintenant, ça va. L'histoire est passée. Donc je risque plus. Bon, si je risque, tant pis. À mon âge, ce n'est pas trop grave. Mais voilà, il n'y a plus beaucoup d'années avant de partir. Alors c'est bien, autant être là-haut. Mais je rentre en France et je vais à mon église Et puis d'un seul coup, deux personnes viennent me voir et ils me disent « Si vous parlez, vous êtes mort. » Oh ! En France, on est venu me dire ça. Panique ! Et puis j'ai dit « Oh là là, mais je ne peux pas garder ça pour moi tout seul. Il faut que je partage avec quelqu'un. » Alors j'ai partagé avec un ancien. Et je lui ai dit « Tu dis rien, mais c'est terrible ce qu'on m'a dit, quoi. » Et je dis « Et en fait, on te dira quand tu pourras reparler. » C'est une rude histoire. Alors, j'ai attendu et d'un seul coup, j'ai reçu les journaux. En fait, les deux personnes qui sont venues me voir, c'était deux journalistes de là-bas, africains. Et en fait, ils m'ont dit ça pour me protéger de mon propre président, qui m'aurait tué si j'avais raconté ce que j'ai vu. Il y avait des traces, il y avait des papiers, il y avait tout, quoi. Et quand tout sera libre, ils m'ont dit « on te rappelle ». Donc, ils m'ont rappelé, ils m'ont envoyé le journal écrit que tout est arrivé à la lumière. Alors maintenant, tu peux parler, tu n'as plus de risque. C'est incroyable. En fait, Dieu m'a envoyé deux anges. J'ai eu peur parce que je n'ai rien compris, mais en fait, c'était pour me protéger. Heureusement que j'ai eu peur, quoi, finalement. Parce que j'aurais peut-être parlé trop vite. Mais regardez comment Dieu est... Et je sais que souvent, c'est quand on est en bas que l'Esprit de Dieu peut commencer à agir. Il prend le relais. Je ne pouvais pas justifier quoi que ce soit. J'avais vu ce que je n'aurais pas dû voir. Et pourtant, vous comprenez, quand Dieu est avec nous, quand on le connaît, pas juste ce qu'il fait, mais je sais qu'il est à côté de moi, il ne me laissera pas, il ne m'abandonnera pas, il ne me quittera pas, c'est une tour forte, une haute retraite, une protection. Alors, je n'ai rien à craindre. C'est vrai. Et je pense que Dieu veut nous apprendre. Et c'est souvent, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on est désespéré, qu'on commence à vivre des choses très fortes avec le Seigneur. Et souvent, le Seigneur fait référence dans sa parole comme un défenseur, un consolateur. Vous connaissez ce passage qui parle, c'est notre consolateur. Et j'aimerais vous dire, pourquoi avons-nous besoin de faire l'expérience du consolateur si on est déjà aussi confortable, quoi ? Et je pense qu'en France, on est vachement confortable, quoi. C'est pour ça que finalement, on ne vit pas les choses qu'on devrait vivre dans la parole. Parce qu'on est trop confortable. On a trop de sécurité à nous-mêmes, humaine, humaniste. On a tout. Si demain on est malade, la sécu va nous rembourser. Vous allez dans certains pays où j'étais à Madagascar, vous n'avez pas du tout de sécu. Il n'y a même pas de médecin. Donc la plupart des gens qui ont des problèmes de santé, c'est souvent dû à ce qu'il n'y a pas eu de médecins qui n'ont pas pu les soigner, quoi. Oh, je vous raconte une histoire. Personne ne m'a rappelé ça tout à l'heure. Quand j'étais à Madagascar, je ne crois pas que je vous l'ai dit cette histoire, mais je suis allé en brousse, vous savez, du côté de Tamata, mais très loin dans les canals des parcs Galam, qu'on appelle ça, et pour ceux qui connaissent Mada, et puis du côté de Tamatave, et puis dans la brousse, où qu'on ne peut pas aller comme ça, parce qu'il y a des trous, vous mettez la voiture sur des morceaux de bois pour traverser les rivières. Des fois, vous traversez les ponts, il y a des planches, quand vous revenez, il n'y a plus rien, quoi. Alors, ils ont été enlevés. Alors, c'est tout des risques tout le temps, c'est de l'eau, il pleut beaucoup. Voilà, et puis plus qu'en Bretagne, vous avez battu, là, vous, vraiment. Hein. Non, c'est juste pour vous taquiner, parce que nous, on a le soleil. Voilà, et bien, en vrai... C'est juste entre deux, comme ça. Et puis, j'étais là-bas, il n'y avait strictement rien. Oh, c'est super sympa. Et s'il y avait il n'y avait rien du tout. Et puis, je suis rentré dans ce lieu. Et avant d'y arriver, la nuit, Dieu m'a réveillé, plutôt. Et d'un seul coup, il me montre une oreille interne. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une oreille interne. Et je voyais ça. Et puis, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Il dit, ce matin, je vais guérir les sourds. Je dis, waouh ! Je dis, Seigneur, mais comment ils vont pouvoir savoir ? Pas de publicité, rien du tout. Nous, on essaie tellement de faire de tas de choses de publicité, alors que c'est Dieu qui convoque les gens par son esprit. Il faut vraiment dépendre de lui, n'est-ce pas ? Et puis, je ne veux pas le dire à mes frères, parce que je dis, ils vont me dire, Hervé, oh, il a disjoncté, parce qu'on est tellement habitué que ça ne marche pas, quoi. En fait, parce qu'on ne rentre pas dans ce qu'il a préparé. Et puis, en cours de route, le Seigneur dit, tu vas leur dire quand même. J'ai dit, bon, je vais leur dire alors. Et puis, j'avance avec eux, et en voiture, en 4x4, et puis là, je leur dis, écoutez, voilà, Dieu m'a parlé, et je pense qu'il va guérir les sourds. les sourds. Et ils n'ont pas répondu. Ils sont presque moqués de moi, quoi. Ils ont ri, quoi. J'ai dit, wow, Seigneur, peut-être que ce n'est pas vrai, alors. Peut-être c'est moi qui rêvais, quoi. Puis on arrive sur place, ah, il y avait beaucoup de monde qui était là sans qu'on ait rien dit à personne. Et puis voilà, ce n'est pas moi qui prêche, on fait prêcher quelqu'un d'autre, ça devait être moi. J'ai dit, donc, Seigneur, peut-être tu ne veux rien faire, quoi. Tout de suite, très vite, on revient sur nos propres chairs, notre combat, voilà. Faisais pas confiance, je ne connaissais pas Dieu vraiment, finalement. Si Dieu l'a dit, il l'a dit, quoi. Et puis, après ça, il me dit, mais Hervé, puisque tu as dit qu'il y avait des sourds, voilà, prie pour les sourds. Mais je ne sais pas si vous avez déjà prié pour... Et dire à des gens qui est sourd, personne n'entend, quoi. Alors moi, j'ai regardé, j'ai dit, il se moque vraiment de moi, quoi. Mais tant pis, je dis, voilà, Dieu veut guérir les sourds. Et puis je vois des gens qui tapent dans les autres, puis ils les poussent devant. Je dis ça alors. Donc ils ne savaient pas, mais les autres le savaient, donc ils l'ont poussé. Puis ils arrivent devant. Ah oh là là, il y en avait en pagaille. J'ai jamais vu autant de sourds. En fait, là-bas, les problèmes d'oreille, c'est parce que les gens ont eu des infections, ils n'ont pas été soignés. Donc, ils sont devenus sourds. Tu te rends compte? À cause qu'il n'y a pas de moyen de se soigner. Alors que nous, on a tout, quoi. Et puis, voilà, on se retrouve là. Et premier sourd, je prie. Et vous savez, comme c'est écrit dans la Bible, « Ephrata, ouvre-toi !» J'ai fait comme ça. Mais rien ne s'est passé. Je dis, oh là 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 là, j'ai commencé à baliser un peu, tout le monde me regardait, et il s'est mis à pleuvoir, comme d'habitude. Noyé, je prie pour la deuxième personne, je dis, Ephrata, ouvre-toi. La personne a fait, ah. Je dis, oh, je dis, c'est passé quelque chose. Je dis, t'entends? Et la personne a fait, elle entendait. Je dis, ouah. Et les autres, ils me disent, vous savez quoi? Et elle n'était peut-être pas sourde. Oh, purée, vous savez? La pression de l'entourage, c'est terrible. Et puis après ça, ouais, voilà, alors je dis, bon, je priais pour l'autre, et j'avais toujours mon traducteur hein, avec moi. Et puis je dis, bon, je leur fais faire demi-tour avant, je fais des tests pour voir s'ils sont vraiment sourds, quoi, parce qu'ils m'ont dit. Et les gens n'entendaient vraiment pas. Et il y en a eu beaucoup, et tous ont été guéris, sauf la première. Et là, je n'ai pas compris. Et je me dis, mais pourquoi, Seigneur, elle? Je n'ai pas compris. Bon, il est souverain, mais elle n'a pas été guérie. Et tous les autres ont été guéris, tous. Puis le lendemain, regardez comment ça se passe. Moi, je ne dormais pas sur place parce que, voilà, il faut dormir sur des bambous. Je vous assure, dans le dos, ça fait mal. Alors moi, je ne pouvais pas. Puis voilà, quand on est jeune, ça va bien, mais quand on n'est pas trop jeune. Mais eux, ils sont déjà agis, ils dorment encore sur des bambous. Hein. Mais nous, on n'a pas trop l'habitude dans le dos, ça fait mal. Ça fait des boules comme ça. Ouh, bon, ça remet peut-être les colonnes vertébrales d'aplomb, j'en sais rien. Mais bref, en tout cas, je rentre à Tamatave et puis la nuit, je dors. Et j'étais heureux, je dis, Seigneur, merci d'avoir glorifié ton nom. Et puis là, en pleine nuit, il me réveille encore et il me dit, Hervé, aujourd'hui, je vais guérir les aveugles. Je dis, oh non. Je dis, Seigneur. Je dis, bon, il me l'avait fait hier le coup. Je dis, ça doit être vrai quand même quelque part, quoi. Et puis donc, on va là-bas et je préviens les autres. La veille, ça a marché. Je dis, là, je leur dis, quoi. Et encore, ils ne se sont pas intéressés à ce que j'ai dit, quoi. J'ai dit, ça alors, ils ne me font pas encore prêcher. Je dis, bon, c'est pas grave, Dieu fait comme il veut. Je dis, peut-être je me suis encore trompé. Et puis arrivé là, il me dit, mais Hervé, t'as dit qu'il y avait des gens qui ne voyaient pas, des malvoyants. Demande pour prier pour eux. Mais alors comme ça, dans cette façon-là, c'est très encourageant, quoi. Et puis, la foi, les bourre. Et puis, je demande, et écoutez, c'était plus du tout les mêmes gens. Des gens qui venaient de je ne sais pas où, c'est tous des gens avec des problèmes dans les yeux. Tous. La première personne que je prie, c'est un instituteur. Il parlait très bien le français. Toujours un instit, tu vois, on a vraiment des gens bien. C'est juste pour des clins d'œil pour mon ami là-bas. J'aime beaucoup, il est super gentil. Voilà, il faut l'écouter, il va vous remettre sur des pistes, voilà, pour les enfants. Voilà. Alors, je vais là et je prie pour l'homme parce qu'il dit, c'est terrible, je ne vois plus clair, il n'y a pas de lunettes, il n'y avait rien. Il dit, je ne peux plus enseigner les enfants, j'arrive plus à voir, ni de près, ni de loin. Il dit, c'est terrible. Et moi, je lui dis une chose, quel âge tu as? Pourquoi j'ai dit une chose pareille? Et il avait le même âge que moi. Oh, ben je lui dis, c'est normal quand on vieillit, quoi. Je lui dis, te promets, hein, j'ai fait ça. Hervé, il est comme ça aussi. Et puis je dis, après tout, moi, j'ai perdu aussi à un certain âge mes yeux, quoi, là. Enfin, j'ai moins. Alors il dit, c'est les années, quoi. Et puis j'entends Jésus qui me parle, le Saint-Esprit me dit, Hervé, ça te regarde? Oh, j'entends ça. J'ai dit, Seigneur, pardon, je te demande vraiment pardon. C'est vrai que ça ne me regarde pas. Oui, je vais prier pour lui, quoi. Je prie pour lui, et d'un seul coup, il dit, je vois. Et parler français, c'est super, lui. Alors je dis, d'accord, on prend la Bible, et je lui fais lire là. Il lit couramment. Je dis, recule-toi avec la Bible là-bas, loin. Il était assez loin, presque où il y a la sono. C'est impossible, même avec des yeux normaux, de voir jusqu'à là-bas, quoi. Et il lit couramment. Je dis, ça alors? Et je dis à Jésus, c'est pas juste, et moi, tu m'as rien fait, quoi. Quand même. Bon, Dieu vit comme il veut, il est souverain. Ça, c'est moi avec Jésus. Mais voilà, on parle beaucoup, on est héritier, on a le droit de parler à notre papa et lui dire qu'on n'est pas d'accord. Hein. Il aime l'entendre aussi. Mais c'est toujours lui qui a raison. Alors, bon, voilà. On finit par se soumettre. Et puis, voilà, il a guéri tous ceux qui ne voyaient pas. Mais tous, là, il n'y en a aucun qui est resté. Tout le monde a été guéri. Incroyable. Alors, vous imaginez, ils avaient démarré une église, ils allaient multiplier d'un seul coup, parce que tous les gens, ils ont dit, alors qu'ils allaient vers les sorciers, maintenant, ils vont vers Jésus. Ils disent, bon, ben, Jésus nous guérit, ça ne nous coûte rien, quoi. Les sorciers demandaient toujours beaucoup, mais eux, ils avaient guéri complètement, transformé, et ils ont appris à connaître Christ. C'était super de voir ça, de voir comment Dieu a manifesté sa puissance. Mais comment ça, si tu ne le connais pas, si tu ne sais pas qu'il est ton ami, que tu es héritier avec lui, qu'il t'a donné toute autorité, tout pouvoir, toute puissance, tu ne pourras pas vivre ces choses. Il faut le connaître. Il faut vraiment le connaître. Et on a besoin de ça. Jésus veut nous apprendre à vivre avec lui. Je pense qu'il veut nous apprendre à dépendre totalement de lui, que l'on pense ou qu'on ne pense pas, qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord. C'est lui qui est Seigneur. Et souvent, on veut faire tellement à notre façon, je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui. On veut tellement, tellement provoquer, on veut tellement faire, on pense parce qu'on va faire telle chose que ça va changer tout. Il y en a qui disent, c'est parce qu'il a prié en langue longtemps que finalement l'Église était bénie. Je dis non, ça n'a rien à voir du tout, quoi. Pas du tout, c'est Jésus qui bénit, il fait comme il veut, quoi. C'est pas parce que toi tu as fait plus qu'un autre. Non, tout le monde est important pour lui. Même la petite, quand vous regardez la petite pièce que le petit malheureux a mis, ça avait plus de valeur que ce que les grands riches avaient donné. Tu te dis, mais Jésus, comment il mesure? Pas avec nos mesures à nous, mais avec les siennes. Et je pense que des fois, on gère mal les choses et on ne connaît pas Dieu. Donc on agit parce qu'on a soif de vivre des choses, mais on a tellement soif qu'on provoque des choses, mais on ne les vit pas vraiment finalement. En fait, c'est des choses purement humaines. Alors que c'est l'Esprit qui doit nous conduire en toutes choses. Même quand c'est difficile, je vous raconte une autre histoire, puis après j'arrête parce que ça, j'ai donné quelques paroles, ça fait déjà midi moins le quart, ça passe vite le temps. Hein. Voilà, je suis comme un papé, j'aime raconter des histoires, mais c'est des choses que j'ai vécues, je vous promets. Une nuit, je devais aller au Sénégal. Et ça fait très longtemps que je suis des églises là-bas, je forme des gens dans les écoles de disciples, et j'y allais régulièrement pendant une semaine par an, et puis aussi d'autres fois. Et puis, voilà que je devais y aller, ils n'avaient pas encore pris mon billet d'avion, mais je devais y aller, puis c'était un mois avant de partir à peine. Et d'un seul coup, à 3h30 du matin, c'est précis, hein, parce que je m'en rappelle bien, ça fait tôt quand même. Hein. Jésus me réveille. Vous n'êtes jamais réveillé par Jésus, vous. Je m'assois et j'entends, si tu vas là-bas, tu ne reviendras pas. Fais ton choix. Alors Jésus ne m'a pas mis une barrière. Stop ! Mais il nous laisse toujours la liberté de faire nos propres choix. Il m'a averti de ce qui allait arriver. Tu vas être enlevé et on ne te retrouvera pas. Et tu mourras. Pourtant, c'est le Sénégal, c'est protégé quand même, plus ou moins, même s'il y a 99% de musulmans, mais quand même. Alors, tout de suite, quand j'ai ça, je devais, et j'ai prié, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui est le mieux, que j'aille ou que je reste? Seigneur, il dit, comme tu veux, tu choisis. Les deux, tu seras béni quand même. Moi, je n'avais pas envie de mourir. Puis après, j'ai réfléchi et puis j'ai dit, mais c'est vrai, il y a tellement d'autres choses que Dieu en prévision pour moi. Il m'avait donné des plans, des choses pour aller dans des endroits. Je dis, alors, ça s'arrête d'un seul coup? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Et Jésus m'a averti. Comme il a averti les prophètes, comme il a averti certaines personnes dans la parole de ne pas aller à Paul, de ne pas aller à tel endroit. Puis à un autre endroit, c'est un Macédonien qui l'a appelé. Vous voyez comment ça se passe? Et puis, j'ai dit, bon, j'y vais pas. Et j'ai eu une paix dans mon cœur. J'ai dit, bon, je crois que j'ai bien fait le bon choix, cette fois. Et puis, j'appelle là-bas, ils n'avaient pas encore pris mon billet. Et je leur dis, voilà, je ne viendrai pas parce que Dieu m'a dit ça. Mais eux, ils sont là-bas au loin, ils ne savent pas si c'est réel ou pas. Ils peuvent croire que j'ai peur de quelque chose, quoi. Ah, le dit, on respecte ta décision, tu fais comme tu veux. Mais voilà, c'est pas juste, nous on t'aime bien, t'es un papa. Il y a tellement de conversions avec toi dans les musulmans et tout ça, on dit, mais voilà. Et puis, je dis non, je crois qu'il faut pas. Mais je voulais avoir la certitude de ce que j'avais reçu quand même. On a besoin des confirmations. Alors, le jour où je devais aller, qui était programmé, je dis à un gars d'Afrique, tu vas aller à l'aéroport et tu vas écouter ce jour-là ce qui se passe. Tu fais rien, t'écoutes. Il dit, si tu veux, je vois pas pourquoi. Il dit, mais je le fais, je te promets. Puis il est allé, c'est un Africain, puis il s'est mis dans l'aéroport le jour où je devais y aller. J'avais pas pris mon billet, mais les chrétiens savaient que je devais venir. Comprenez, c'est-à-dire, il y en a qui sont chrétiens, entre guillemets, quoi. Et des gens l'ont entendu, et au moment où il est à l'aéroport, il entend... Hervé Guillois doit se présenter à la police avec son passeport pour vérification. J'étais pas là. J'étais en France. Comment ils pouvaient? Parce qu'ils sont restés avec cette dénonciation. Bon, il y a eu plusieurs imams qui sont convertis avec moi. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, ils voulaient vraiment que ça finisse avec moi, là, avec tout. Et des musulmans qui sont convertis. Mais regardez comment Dieu a fait. Et le gars dit, mais c'est pas possible, ils sont menteurs, il n'est même pas là. Mais en fait, il n'avait pas compris que quelqu'un qui était avec Jésus, entre guillemets, mais qui réellement n'avait pas donné sa vie à Jésus, mais qui réellement était pleinement dans le monde, eh bien, qui a simplement dénoncé que j'allais venir. Et je ne suis pas venu. Donc si j'étais venu, la police est corrompue là-bas beaucoup, il m'aurait amené et puis il m'aurait mis dans un taxi et puis on ne me revoyait pas, quoi. Et ça va très vite. Hein. Bon, voilà, comme quoi, vous voyez, quand tu fais confiance au Seigneur, Dieu nous avertit de toutes choses, même des situations les plus terribles. Mais il faut le connaître. Est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que tu sais que c'est ton ami? C'est ton papa? C'est celui qui est avec toi tous les jours, même quand ça va mal, quoi. Moi, je veux arrêter là parce qu'il est déjà tard, mais... J'ai donné quelques paroles, mais je voulais juste vous dire ça pour que vous compreniez. C'est pas un jeu, c'est vraiment une intimité avec lui. C'est échange papa-fils. Et on peut lui dire, on n'est pas d'accord, il nous dit les choses. Et puis on discute et on peut lui demander, Seigneur, j'ai peur aujourd'hui, viens. Seigneur, ça va pas dans mon cœur. Seigneur, je rencontre telle personne. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton assurance. Et il donne l'assurance au moment où il le faut. Mais c'est au travers de nos faiblesses qu'il se glorifie, n'est-ce pas? C'est quand je suis faible que je suis fort. Hein. Et tu vois tout cela. Et je voudrais juste vous dire tout ça parce que c'est tellement important pour les choses à venir pour vous. Donc j'arrête, j'aurai tellement de choses à dire, vous savez, mais et tellement d'exemples, mais il y a un temps pour tout. Il faut respecter le temps et de chacun. Et puis... Je vais vous donner quelques paroles prophétiques, ça va? Et puis, ils enregistrent là-bas. Hein, et puis, en dehors, je ne donnerai pas de paroles, hein, tout simplement. Mais toutes les paroles que je donne, voilà, les responsables entendent. Et je vous encourage à pouvoir aller les voir, des responsables ou des gens plus mûrs spirituellement que vous, pour prier pour ce que vous avez reçu, pour vous aider à grandir et à rentrer. Et peut-être savoir si c'est juste ou pas juste. Les choses. Des fois, on analyse avec les responsables. Puis des fois, on ne se voit pas tel que Dieu nous voit. Puis quand on parle avec les responsables, ils disent « Mais je te l'avais dit, ça, il y a quelque temps. » Et la personne a dit oh. mais vous ne l'avez pas entendu, vous n'étiez pas prêt. Et puis quand Dieu le répète une autre fois, dit, ouah. Alors les responsables vous disent, mais tu sais, on avait déjà vu ça ensemble, tu vois. En fait, Dieu met le doigt maintenant. Et je crois qu'il y a des choses comme ça, c'est étonnant comment Dieu fait. Moi, je suis toujours étonné. Ce n'est pas parce que je suis plus... Non, vos responsables, ce sont les anciens ici, pasteurs et anciens. Moi, je suis juste venu pour vous aider à rentrer dans les choses que Dieu a voulu. Je ne devrais même pas prophétiser normalement. Moi, on le fait parce qu'il n'y a pas assez. Mais c'est encourager les autres à le faire, quoi. Et à rentrer dans les projets de Dieu. Donc voilà, j'ai donné quelques paroles de connaissance et puis ça va être enregistré. Voilà.